L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Berlin, 13 mars 1920. Il neige sur la porte de Brandebourg. Dans les rues, des cortèges d'ouvriers en colère croisent des milices improvisées. Un putsch mené par Wolfgang Kapp vient de renverser le gouvernement. Dans les bâtiments officiels, c'est le chaos. Les hommes se croisent, ignorant du camp qu'ils servent. La confusion est totale. Le gouvernement a fui, appelant la grève générale. Au milieu du chaos, un homme reste impassible, assis sur un banc devant un kiosque du Tiergarten. Arrivé il y a quelques semaines, il n'est ni allemand ni militaire. Devant lui, une pile de journaux fraîchement imprimés. Il ne sent pas le froid. Il est au cœur du nouveau pouvoir et cela lui réchauffe les os. Il s'appelle Ignaz Trebitsch Lincoln. On lui a confié une mission. Contrôler la presse, censurer les nouvelles, orienter l'opinion. Il rature des titres, invente des consignes. Pour quelques jours, il joue à être l'œil de l'État. Ses mains tremblent légèrement, mais son sourire est assuré. Ministre de la propagande et de la censure, il est au centre d'un coup d'État porté par la mouvance White International. Dans quelques heures, lui, le petit juif hongrois, rencontrera même Adolf Hitler. Des gens hurlent dans les rues. Une bombe artisanale explose devant le siège du Parlement. Trebitsch regarde sa montre. Nous sommes le 13 mars 1920. Il est 14h34 et c'est l'heure H de mon histoire. Ignaz Trebitsch, c'est son nom de naissance. Né en 1879 dans la petite ville hongroise de Pax, sur les bords du Danube. Fils d'un marchand de céréales, il grandit dans une maison modeste, entouré de trois frères, de prières et d'une mère aux petits soins. Le petit Ignaz subjugue très vite par sa capacité à séduire et à convaincre son entourage. On décèle également chez lui une tendance naturelle aux mensonges et aux affabulations. On découvre, par exemple, dans sa mallette d'écolier, des papiers selon lesquels il prétend s'appeler Abraham Schwartz. Mais quel enfant ne ment pas ? Ça n'inquiète évidemment personne. Tous les enfants se racontent des histoires, inventent des personnages. Ignaz est la coqueluche de l'école. Et lui s'ennuie. Il rêve d'horizons plus larges, de grandeur. Un soir, de retour de l'école, il dévisage sa mère en train de ranger la vaisselle, puis lui demande « Mais qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Qui a eu l'idée de s'enterrer dans ce trou ?» Quelques semaines plus tard, la famille déménage à Budapest, la capitale, enfin. Enfin une ville à sa taille. Oui, peut-être, pour le moment. Ignaz Trebitsch rencontre de nouveaux camarades à l'école. Il y a les nouveaux voisins aussi, des émigrés russes, des Anglais. Ignaz parle sans arrêt, il découvre un peu plus chaque jour le pouvoir vertigineux du mensonge et de la manipulation. Il comprend vite que son arme la plus puissante n'est ni la force, ni la richesse, mais la parole. Est-ce que c'est lui qui a un talent particulier pour influencer les gens ? Ou est-ce que ce sont les autres qui éprouvent des scrupules à mentir, trahir ou manipuler ? Il ne comprend pas bien ce qui les retient. Chacun doit tracer sa route, faire son chemin, trouver le moyen d'accéder à une vie grandiose. Et Ignaz, lui, part de très loin, du fin fond de la Hongrie. On peut dire que c'est un certain handicap quand on rêve en grand. À 15 ans, il intègre l'Académie royale hongroise d'art dramatique. Il préfère l'improvisation au texte appris. Jouer un rôle, un nouveau rôle chaque jour, créer une vie entière en quelques secondes. Ses professeurs remarquent un talent particulier. Ignaz jubile. pourquoi s'arrêter quand le rideau tombe? Alors, il invente toujours plus de personnages, de patronymes, il change d'accent. Ses camarades ne savent jamais s'il porte un nouveau masque, s'il joue un nouveau personnage ou si c'est vraiment lui. Les filles sont troublées. Un soir, Catherine, sa nouvelle conquête, le regarde devant la cheminée et murmure « On ne sait jamais qui tu es. » Ignace sourit. Le théâtre, oui, mais pas seulement sur scène, pas seulement lors des cours ou quand ils se retrouvent la nuit pour répéter. Le théâtre partout, tout le temps. La vie est un théâtre. La vie doit être grandiose, alors jouons. Catherine le regarde, interloquée. Ignace a cette façon parfois un peu pompeuse de s'exprimer. Il est un peu trop grandiloquent pour un gamin de 16 ans, et c'est justement ce qui fascine et séduit celles et ceux qui le rencontrent. Soudain, on frappe à la porte, des coups secs. Ignace se fige. Les coups reprennent, plus longs, plus violents. Catherine a peur. Ils vont casser la porte, faut appeler la police. Elle veut se blottir contre Ignace, mais il se dirige lentement vers la fenêtre ouverte. « Police !» crient les hommes de l'autre côté de la porte. Catherine est terrorisée. « C'est pas ton appartement ?» Elle voit la porte qui s'apprête à céder sous les coups de la police, puis se retourne vers la fenêtre, mais Ignace a déjà disparu. En quelques mois à peine, la police apprend à bien connaître le jeune garçon. Il est arrêté et jeté au cachot pour de menus larcins, comme des vols à l'étalage ou l'occupation illégale d'appartements dont les propriétaires sont absents. Mais cette fois, il pense qu'on ne va pas le laisser s'en sortir à si bon compte. S'il l'attrape, ils vont le présenter à un juge. Ignace Trebić décide de fuir pour échapper à la prison. Budapest est déjà trop petite pour lui. À 18 ans, il débarque seul en Angleterre. La Grande-Bretagne représente pour lui une terre promise. Voici enfin un terrain de jeu à la hauteur de son ambition et de son appétit insatiable de pouvoir, d'argent et d'aventure. C'est le monde, le grand monde, enfin. Toute cette modernité quand même. Trebić ouvre des yeux immenses. Londres est pour lui un immense gâteau dans lequel il a hâte de croquer. Mais il lui faut une porte d'entrée pour pénétrer dans le cœur de la ville. Il choisit la religion. Il est né juif, mais ça n'a aucune importance pour lui. Il aurait pu tout aussi bien être péruvien, arabe, bouddhiste ou chinois. Ignace Trebić a 18 ans et une vie immense devant lui. En Angleterre, il se convertit et devient protestant. Il sait qu'il faut s'adapter. Les immigrés pauvres n'intéressent personne. Alors, s'il faut changer de religion comme certains changent de chemise, à qui est-ce que ça pose un problème? Certainement pas à lui. Trebić est baptisé le jour de Noël 1899. Rien n'est jamais assez grandiose pour lui. Ignace Trebić se montre particulièrement dévot et est rapidement remarqué par les enquêteurs ecclésiastiques. Résultat, il est envoyé dans un séminaire luthérien à Breklum, en Allemagne. Il tâte le pouls, tente de comprendre ce qu'il peut retirer de l'expérience. Quand il se rend compte qu'on le destine à devenir pasteur, il prend peur. Le pastorat, c'est une voie sans issue dont il ne pourra s'échapper. Alors il prend son air contrit et va trouver l'évêque pour le convaincre qu'il faut continuer de baptiser de nouveaux adeptes. Pour ça, il pense qu'il fera l'affaire. Il a un don naturel pour embrigader les gens. Même s'il n'y en a pas besoin, avec une religion aussi pure et formidable que celle qui nous porte chaque jour, conclut-il. La rencontre dure 2 heures. Seul Ignace Trebić parle. Le surlendemain, il est mandaté en tant que missionnaire parmi les Juifs de Montréal. Trebić est ravi. Un nouveau terrain de jeu, un autre continent. Là, il change d'écurie. Il sert les intérêts des presbytériens, puis des anglicans. Quelques mois plus tard, Ignace Trebić se présente au siège de l'Alliance anglicane de Montréal. Cela fait des mois qu'il trime comme un bœuf à essayer de convertir des types terrés dans des caves. L'esprit tellement dévoré par le Lévitique qu'il l'écoute à peine. Lui, l'ancien juif hongrois, qui leur débite ses plus belles salades. Messieurs, je vous remercie de me recevoir, mais je vais aller droit au but. Mon salaire n'est pas suffisant. J'ai une famille, une épouse, un enfant en bas âge. Je ne peux pas vivre décemment avec ce que vous me versez. Je sais qu'il s'agit d'une mission, un service rendu à Dieu et non pas une carrière lucrative. Le pasteur vit de l'autel, dit l'écriture, mais la ferveur ne nourrit pas un enfant, messieurs. Et si vous croyez que mon travail peut être rémunéré au rabais, vous vous trompez. Je prêche 3 fois par semaine, je visite les malades, je prépare mes sermons. Ce que je vous demande n'est pas un luxe, c'est le nécessaire. Devant l'air stupéfait du responsable de l'Alliance qui n'a jamais dû gérer ce type de demande, qui donc vient se plaindre de son salaire quand il est au service de Dieu, Trebitsch s'agace. Si vous ne pouvez rien, je demande une audience sur le champ avec l'archevêque de Canterbury. Oui, notre leader spirituel. Personne d'inférieur à lui ne mérite d'entendre ma requête. Il rencontrera bien l'archevêque, mais plus tard. Et pour le moment, son allocation n'augmente pas. Trebitsch décide alors de rentrer en Angleterre. C'est un cul-de-sac. La religion ne lui a rien rapporté. Pendant quelques jours, il marche sans cesse le long de la Tamise. Il cherche une nouvelle idée. Et puis ça lui vient. Soudain, clair et évident. Comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt ? C'est décidé. Il va s'introduire dans un autre monde qui le fascine, la politique. Là, il le sait, il y a de l'argent et puis aussi le pouvoir. Il a les yeux qui brillent, rien que d'y penser. Et ses yeux continuent de briller quand il s'agit de se présenter comme un gentleman respectable dans les soirées mondaines où il se faufile sans invitation. Il a fallu dérober un somptueux costume qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter, mais le vieux tailleur de Trafalgar Square n'a rien remarqué. Marié, père de famille, intellectuel, il fréquente des cercles philanthropiques, gagne des protecteurs. On le dit brillant, ambitieux, charmeur aussi. Il change de nom et devient Ignatius Timothy Trebitsch Lincoln. ITTL, plus british à son goût, histoire de se fondre parfaitement dans le moule. Dans la foulée, il se fait naturaliser citoyen de Sa Majesté et devient britannique. Il rencontre Simon Rantry, un éminent membre du Parti libéral et devient son secrétaire particulier. Ensemble, ils voyagent à travers l'Europe pour des enquêtes sociales. C'est à cette époque que les deux rédigent un ouvrage sur la pauvreté qui influencera le Parti libéral britannique. Poverty, a study of town life. La pauvreté, Trebitsch Lincoln la connaît bien. Et il fait tout pour s'en débarrasser. Moins d'un an plus tard, il se présente aux élections de 1910 sous l'étiquette libérale. Il réussit l'impossible. En janvier 1910, il est élu député libéral de Darlington. Imaginez, ou plutôt, rappelez-vous, un fils de marchand hongrois, né dans ce qu'il appelle un trou à rats et dont il ne parle plus jamais, au milieu des vaches et des cochons, devant les eaux boueuses du Danube, qui s'assoit dans l'enceinte sacrée de Westminster, au cœur de l'Empire britannique. Ah ben ça y est, il y est. Le jour de son premier discours, la Chambre des communes est pleine. On attend avec curiosité ce nouveau député au nom étrange. Il se lève, traverse l'allée centrale, gravit le pupitre. Ses mains tremblent. Il tient des notes, mais n'en lit aucune. Il parle sans préparation. Sa voix hésite, puis s'affermit. Il évoque la loyauté envers ses électeurs, la justice sociale, les réformes nécessaires. Certains députés hochent la tête, d'autres ricanent. Il est étranger. Son accent est épais, mais il a l'assurance de celui qui croit tenir sa chance. Il croit avoir conquis sa place. Trebitsch Lincoln doit profiter des premières heures et des premières semaines, car ça ne va peut-être pas durer. Rapidement, on découvre ses dettes, ses emprunts frauduleux, ses mensonges. Les journaux s'emparent de l'affaire. Ses alliés le lâchent. En moins d'un an, sa carrière politique est brisée. Westminster lui ferme ses portes. Pour lui, commence alors une fuite qui ne s'arrêtera jamais. L'Angleterre ne veut plus de lui. Très bien. La pilule est amère, mais ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort. Dans les jours qui suivent, il embarque à destination de Bucarest. Il part à Danville avec ses grands airs de nabab. En le voyant, impossible de savoir qu'il est ruiné, endetté et devenu un paria. Non, il roule des mécaniques et s'acoquine rapidement des nouveaux riches qui ont fait fortune dans l'industrie naissante du pétrole. Sa méthode ? Bon, toujours la même. Escroquerie par abus de confiance. Il se mêle au gratin des personnalités locales, parle haut et fort, charme autant qu'il peut et glisse l'air de rien, sans s'en vanter plus que ça, qu'il est un ancien député britannique. Comme si c'était un détail anecdotique de son formidable parcours. Puis, il leur expose des réussites commerciales en Hongrie, à Londres et au Canada, qui l'ont rendu richissime. Ensuite, il se rapproche d'eux, un verre à la main, lentement. Il murmure maintenant. Mais il me semble bien avoir découvert un nouveau filon qui peut rapporter encore plus gros, dit-il. Les autres écoutent désormais. Il se rapproche. On n'a jamais vu de profit aussi faramineux. Trebitch Lincoln vient de les ensorceler. Quant à lui, il ouvre de grands yeux, tente de déceler le plus riche et le plus fragile d'entre eux. C'est avec lui qu'il veut faire affaire. Il se rapproche, gagne sa confiance, se dévoue corps et âme à lui. Il déplie lentement, avec la patience d'un prédateur, son plan d'action. Mais quand il tente de lui sauter à la gorge pour le dépouiller, il se rend compte que l'homme n'est pas si naïf. Ce n'est pas une proie facile. Désormais, il est démasqué. Il faut prendre la fuite. Encore. Après Bucarest, Trebitch Lincoln rentre à Londres. Il a l'impression qu'il pourra toujours s'y réinventer. Il y aura toujours de nouveaux terrains de jeu, au contraire de ces petites capitales de l'Est où l'air devient vite irrespirable pour lui après ses échecs. Trebitch Lincoln tourne en rond dans un petit appartement misérable du quartier de Whitechapel, que lui prête une vieille duchesse qu'il a rencontrée via l'archevêque de Canterbury. Mais il ne reste pas inactif bien longtemps. Une idée géniale vient de le foudroyer, là, alors qu'il fume à la fenêtre. Et attendez donc la suite. Vous n'allez pas être déçus. Le monde n'est fait que d'opportunités qui ne demandent qu'à être saisies. Trebitch Lincoln le sait mieux que personne. Oui, la guerre vient d'éclater. Nous sommes en 1914. Il se dit que le pays a bien besoin de forces vives. Pas question de se rendre dans les tranchées pour se battre comme un paysan. Espion. Ah, par contre ça, ça colle parfaitement à l'image qu'il a de lui-même. Trebitch Lincoln agrémente son CV de quelques exploits supplémentaires. Il peaufine son discours. Il fera un espion parfait, il en est persuadé. Il décide alors de proposer ses services aux renseignements britanniques. Les agents de recrutement britanniques le reçoivent dans une maison discrète de Vauxhall. L'entretien dure plusieurs heures. Trebitch Lincoln parle beaucoup, sans doute un peu trop. Les deux gradés face à lui le dévisagent. Ils prennent des notes, puis ils se retirent pendant de trop longues minutes. La décision devrait être immédiate, s'énerve Ignace Trebitch tout seul dans le grand bureau. Engagez-moi, je suis votre homme. Les examinateurs reviennent. Ils posent les mains sur le dossier face à eux. Non. Lincoln n'entend pas. Quoi, non ? le gouvernement britannique décline poliment à l'anglaise. No, sir. Thank you, sir. Il n'y a peut-être pas d'effusion, pas d'esclandre, pas de scandale qui éclate dans les bureaux du SIS, le Secret Intelligence Service. Mais très bitch Lincoln est rancunier. Il n'accepte pas qu'on lui renie les talents qu'il vient de s'inventer. Vous ne voulez pas de moi? Vous refusez les services d'un homme doté de mes compétences? Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Trebitch Lincoln est foudrage. Aussitôt, il se rend aux Pays-Bas et parvient à se mettre en relation avec des responsables allemands. Ah ça, les Britons ne veulent pas de moi. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et l'homme a la rancune tenace. Alors, en 1914, Trebitch Lincoln va vendre son talent d'espion à l'ennemi, positionné de l'autre côté des tranchées. Oui, il veut se vendre aux Boches. Moins de 2 jours après avoir proposé ses services aux Anglais. Trebitch Lincoln n'y voit aucun problème. Il pense que ce serait ridicule de gâcher un talent comme le sien. Il propose ses services à l'Abteilung, le service de renseignement militaire. Les Allemands hésitent, puis comprennent que le type devant eux a une telle rancœur envers les Britanniques qu'ils sauront toujours en tirer profit. Il l'engage donc comme agent double. À chacun, aux Hollandais, aux Allemands, Ignaz vend des informations parfois réelles, souvent inventées. Il joue au double, triple espion. Il n'a pas de patrie, seulement des clients. Il voyage partout, bouge sans arrêt. Partout, il change de nom, d'histoire, d'accent. Le SIS britannique, Secret Intelligence Service, n'est pas rancunier, mais il est méfiant. Après leur entretien, il garde à l'œil ce type affabulateur, menteur à tendance mégalomaniaque. En 1915, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, Trebitch Lincoln est démasqué. Il échappe de justesse à l'arrestation et s'enfuit aux États-Unis. Là-bas, il prend contact avec l'attaché militaire allemand, qui réfute tout lien avec lui. Scandalisé, Trebitch Lincoln décide de vendre son histoire au New York World Magazine. Ensuite, il loue une machine à écrire, $2 par mois, avec l'argent qu'il n'a pas et qu'il emprunte à une prostituée de Harlem. Il rédige sa version de l'histoire. Après quelques jours seulement, il est arrêté et envoyé à la prison de Brooklyn. La cellule est humide. Une ampoule nue pend au plafond, grésille. Dehors, un train passe. Son grondement fait vibrer les barreaux. Ignaz Trebitch Lincoln est assis sur une couchette étroite. Sur ses genoux, une planche de bois posée en travers. Dessus, la machine à écrire qu'on l'a autorisé à garder. Il tape vite, frénétiquement. De temps à autre, il s'interrompt, lève la tête vers le plafond comme s'il récitait son texte à un auditoire invisible. Le canon en nickel d'un revolver pointé sur ma poitrine. Il s'arrête, sourit, reprend. Oh, la phrase sonne bien. Le lecteur verra tout, entendra tout. Un gardien passe dans le couloir, jette un coup d'œil à travers les barreaux. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Lincoln ? Ignaz relève la tête. L'œil flamboyant. « Je fabrique ma liberté !» Le gardien ricane et s'éloigne. Mais Ignaz continue. Il n'écrit pas seulement une défense ni un témoignage. Il se met en scène. Il fabrique un personnage. Lui, l'ancien député, l'espion, le bouc émissaire du gouvernement britannique. Il ne sera pas un simple prisonnier oublié. Il sera un martyr, un prophète. Un homme traqué parce qu'il en sait trop. Les heures passent, le ruban s'encrasse, ses yeux brûlent, mais il ne s'arrête pas. La cellule disparaît. Dans sa tête, il est déjà dehors. À New York, à Londres, à Berlin, dans les kiosques, son livre trône. Son nom s'affiche en grosses lettres. Il se voit déjà vengé. Son récit est publié par Robert McBride en 1916 avec la bannière « Révélation d'ITT Lincoln, ancien membre du Parlement devenu espion ». On a connu plus discret. Ce qu'il cherche à faire, c'est redorer son blason terni. Non, il n'est pas un fraudeur, ni un escroc, rien de tout cela. C'est un lanceur d'alerte avant l'heure. Victime, évidemment, d'une persécution politique. Et la persécution continue. Le gouvernement britannique tente d'étouffer le scandale que ce livre suscite aux États-Unis et le fait arrêter puis déporter. Le canon en nickel d'un revolver de service pointé sur ma poitrine, accompagné des mots « ne bougez pas, ne faites aucun mouvement », crié par le shérif adjoint américain George B. Proctor. J'avais travaillé toute la journée sur ce livre dans la chaleur torride de New York et j'avais l'intention de me coucher tôt. C'est comme ça que commence son livre. À Londres, il est jugé pour escroquerie financière. Il purge 3 ans de prison et en sort en 1919, déchu de sa nationalité britannique. Voilà. Et maintenant, vous demandez-vous sûrement. ITTL, Ignace Trebitsch Lincoln, a 40 ans. Et c'est une toute nouvelle vie qui commence. La prison, l'inaction, le temps qui s'arrête. Est-ce que tout ça lui a permis de réfléchir à ce qu'il allait faire de sa vie? A-t-il pris conscience de sa situation? A-t-il mûri, gagné en sagesse? Eh bien, jugez par vous-même. Apatride et sans un sou, Trebitsch Lincoln refait surface à Berlin en mars 1920, quelques semaines à peine après sa sortie de prison. Il faut lui reconnaître une certaine capacité à rebondir. Il réapparaît à Berlin le 13 mars 1920 exactement. À ce moment très précis de l'histoire, l'Allemagne est une poudrière. Vaincue, humiliée, elle est parcourue de conspirations. Trebitsch Lincoln réussit à se frayer rapidement un chemin dans les milieux militaristes d'extrême droite de la Weimar. Il rencontre Wolfgang Kapp, un fonctionnaire austère qui rêve de restaurer l'ordre ancien. Cet homme, aux petites lunettes rondes, vient de lancer un putsch qui fait immédiatement tomber le gouvernement. Trebitsch Lincoln est nommé censeur de presse du gouvernement provisoire, comme si son talent pour le mensonge et la fabulation était soudainement une compétence recherchée. Cette fonction lui permet de rencontrer Adolf Hitler. En 1920, il rencontre donc celui qui vient de fonder le NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Le national-socialisme, qu'on appellera bientôt le parti nazi. Celui qui organisera, 20 ans plus tard, le génocide de plus de 6 millions de juifs. Mais lui, est-il encore juif? S'intéresse-t-il encore au sort de sa famille, de ses parents, de ses frères? Non. Ignace Trebitsch Lincoln traverse le monde sans prendre le temps de se soucier des gens qui l'entourent. Il sert sa cause, et c'est un travail suffisamment fastidieux. 5 jours après avoir été lancé, le coup d'État s'écroule. Personne ne les soutient, pas le public, ni les banques, ni aucune institution. C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors Trebitsch Lincoln reprend sa fuite en avant. Vienne, Budapest, chaque fois, il se met en relation avec des factions politiques qui font toute partie de la mouvance connue sous le nom de White International. Dans une nouvelle capitale, il en profite pour vendre ses informations aux différents services secrets. Il n'oublie pas sa vocation tardive d'espion, mais on ne peut pas servir les intérêts de tout le monde, car cela signifie servir les intérêts de personne. Et donc, dans une période qui sent le soufre, sur cette poudrière prête à exploser qu'est l'Europe, vous devenez un traître. Accusé de haute trahison, Trebitsch Lincoln est acquitté de justesse en Autriche. Il est persona non grata partout et son nom devient trop connu. Après l'assassinat d'un parlementaire italien en 1924, le tueur affirme lors de son arrestation s'appeler Trebitsch Lincoln. Désormais, notre protagoniste est complètement cramé sur un continent entier. Impossible pour lui de rebondir. On ne donne pas de seconde chance à des escrocs de cette envergure. La fuite, il connaît. Alors il reprend la route, toujours plus loin. Ignaz Trebitsch-Lincoln erre pendant quelques années. Il reste peu de traces de cette errance. Son nom apparaît de manière très fugace dans « La gigantesque capitale de l'Empire ottoman ». Il semble qu'il ne reste pas longtemps à Constantinople. On peut imaginer comment ça s'est passé pour lui là-bas. Là-bas et partout où il s'est arrêté. Jusqu'à finir en Chine, à Shanghai précisément. Là, il reprend du poil de la bête. Il faut dire que la ville est alors un mélange explosif qui semble parfaitement lui convenir. Concessions étrangères, triades, espions, marchands. Il a de nouveau les yeux qui brillent. Lentement, Trebitsch fait son trou. Ce soir, il a d'ailleurs rendez-vous dans l'un des palais les mieux gardés de l'immensité. Dans la cour boueuse, les soldats claquent des bottes, fusils en bandoulière. Au centre, une maison basse, couverte de tuiles sombres. À l'intérieur, l'air est saturé de fumée, d'encens et de tabac. Des généraux en uniforme se tiennent autour d'une table encombrée de cartes et de théières. Parmi eux, un visage inattendu. Ignaz Trebitsch Lincoln. Assis en retrait, vêtu d'un costume occidental mal ajusté, il tient un carnet et un crayon. Il observe, il note, il traduit. Devant lui, le maître des lieux, Wu Peifu, élégant, barbe fine, robe militaire impeccable. On le surnomme le général lettré. Ses manières sont mesurées, son ton grave, presque professoral. Wu parle en chinois, calmement, en pesant chaque mot. Trebitsch écoute puis se lève, ajuste sa veste et traduit en anglais pour deux journalistes américains invités. Sa voix est ferme, théâtrale. Le général Wu n'est pas un seigneur de guerre, mais un patriote. Il ne se bat pas pour lui-même, mais pour l'unité de la Chine. Il est le défenseur de l'ordre contre le chaos, de la tradition contre la décadence. Les journalistes griffonnent, impressionnés. Trebitsch s'enivre de ses propres paroles. Il fait briller Wu comme un héros national, un rempart contre le désordre. Il ajoute des superlatifs, des images qu'on ne lui a pas soufflées. Il fabrique une légende à mesure qu'il traduit. Wu Peifu le regarde de côté, intrigué. Peut-être devine-t-il que cet étranger en fait trop, mais... pour l'instant, il le laisse faire. Après la séance, dans le couloir, Trebitsch marche d'un pas vif. Il se tourne vers un officier chinois qui l'accompagne. « Vous voyez, avec mes mots, le monde comprendra qui et où. Je peux convaincre les journaux de New York, de Londres. J'ai des contacts. L'opinion publique, je la connais. Faites-moi confiance. Je peux être indispensable. » Comme toujours, Trebitsch parvient à se frayer un chemin jusqu'au plus puissant personnage de la ville. Il se met au service de trois seigneurs de guerre durant une période trouble où le pays est morcelé entre les seigneurs qui se disputent Pékin, les provinces et le contrôle de l'armée. Il est même nommé porte-parole international par le tout-puissant seigneur Wu Peifu. Mais évidemment, ça ne dure qu'un temps. Il finit par se mettre à dos ses anciens maîtres. En 1929, après une supposée expérience mystique, Ignaz Trebitsch Lincoln se convertit au bouddhisme. Il retrouve en quelque sorte son premier amour, la religion. Il se rase la tête, endosse une robe safran et devient moine. En 1931, il est élevé au rang d'abbé. Il établit son propre monastère bouddhique à Shanghai. Désormais, il faut l'appeler Abbé Chao Kung. Dans une salle obscure, parfumée d'encens, il s'assoit en tailleur devant ses disciples fascinés. Sa voix est douce, mesurée. Il guide une méditation. Il parle d'équilibre intérieur, d'un chemin vers la sérénité. Ses adeptes ferment les yeux, trébuchent. Croit-il enfin à ses propres mots ou joue-t-il encore un rôle? À un moment, il se lève et demande aux nouveaux fidèles de faire tourner l'obol. Il convient de se débarrasser de toutes leurs possessions matérielles afin de s'élever spirituellement. Il en prendra grand soin, il le promet. Et nous, à ce stade, on le croit volontiers. Son temple d'une petite secte bouddhique attire des curieux, des adeptes. Certains voient en lui un maître sincère, d'autres le soupçonnent d'être un imposteur. Avec lui, la frontière est toujours brouillée. Mais la politique le rattrape. Alors que l'Europe sombre de nouveau dans la guerre, Trebitsch reprend contact avec l'Allemagne. Au fond de lui résonne toujours la promesse qu'il s'était faite. Hein, ça, vous ne voulez pas de moi comme espion. Hein, les Britons. Il propose aux nazis de créer une mouvance bouddhiste qui se rebellera contre toute influence britannique dans la région. Le chef de la Gestapo en Extrême-Orient, le colonel SS Josef Meisinger, insiste pour que ce projet soit pris au sérieux. Il est sérieusement envisagé que Trebitsch soit autorisé à accompagner des agents allemands au Tibet afin de mettre en œuvre ce projet. Dans le même temps, il rédige une propagande anti-britannique à destination des Japonais depuis son monastère. Rancunier, je vous l'avais dit. Après la mort du Dalai Lama, celui qu'on appelle désormais Chao Kung se proclame comme le nouveau Dalai Lama. Oui, vous avez bien entendu. La mégalomanie n'a pas de limite. Encore plus incroyable, la décision est soutenue par les Japonais qui occupent Shanghai, mais pas par les Tibétains. En 1943, Ignace Trebitsch Lincoln meurt chez lui, dans son temple à Shanghai, à 64 ans, dans une chambre modeste, vêtue de sa robe de moine. Il est emporté par une maladie abdominale, une fin discrète, somme toute banale pour un homme de sa trempe. Au cours de sa vie, Trebitsch change au moins 17 fois de nom, adopte 5 religions, vit dans au moins 7 pays et exerce 8 métiers différents. Alors cette mort banale d'un cancer du pancréas semble mettre un point final presque décevant à la vie extraordinaire de Trebitsch Lincoln. À moins qu'on s'approche un peu plus près du cercueil qui s'apprête à être crématisé. Si on tend l'oreille, on entend quelques rumeurs remonter jusqu'à nous. Les Allemands auraient chargé les Japonais qui occupent Shanghai et une partie de la Chine en 1943 d'éliminer un homme bavard et sans scrupules qui en savait trop. Une mort par empoisonnement. Ça serait une fin à la hauteur du personnage. Et puis, si on s'approche encore un peu plus du cercueil qui attend son heure devant le four crématoire et qu'on frappe doucement sur le bois mince, peut-être qu'on entendra un son creux. Josef Nedava, qui assiste à la cérémonie et qui publiera 10 ans plus tard la première biographie de Trebitsch, affirme en effet que le cercueil est vide. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de John-Henri Brichard et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.